me, mama, put your hand in mine. We can be together to laugh and chat to our very last dime, our last meal, our last sip of wine.
Strudel. On est en train de parler de pâtisserie. Et ben, du coup, on va parler. Alors, Coco,
oui.
Pour la rubrique beauté, c'est quoi? C'est un truc à la base de pommes, de strudel?
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je vais vous donner quelques conseils pour une manucure parfaite.
Oula. Oh. Bah, évidemment, bah, vu qu'il pleut dehors,
bah, oui,
on va
savoir pâtisser. C'est
ben, voilà.
Pourquoi pas? Alors, prendre soin de ses ongles, c'est primordial pour l'aspect esthétique. On l'oublie parfois, mais ils sont aussi importants que la peau ou les cheveux. Et les dents lotées ne pourra être que bénéfique. Voici donc quelques astuces pour chouchouter vos ongles. Le soin des ongles, contrairement à ce que l'on pense, ne passe pas forcément par un rendez-vous chez l'esthéticienne. Vous pouvez le faire chez vous. Ce sont des gestes simples et faciles à adopter. Objectif, avoir des mains superbes et des ongles fortifiés. Comme pour l'épiderme et la chevelure, les ongles se nourrissent d'une bonne santé et d'une bonne alimentation. En effet, constitués de fibres de kératine, les ongles abîmés ou fragiles peuvent être le signe d'un manque de vitamine B. Le premier soin, c'est donc d'avoir une bonne alimentation. Pour limer les ongles, mieux vaut privilégier les limes en carton, moins agressives. Quant au vernis à ongles, retirez-le avec du dissolvant sans acétone. Et protégez vos mains autant que possible si vous faites la vaisselle ou le ménage.
Oui, c'est vrai qu'on ne pense pas parfois à mettre des gants.
Oui, les produits sont les meilleurs ennemis des ongles.
Et pas que.
Et pas que. Pour avoir des ongles propres, utilisez simplement une brosse à ongles et balayez le bout des doigts avec de l'eau et du savon. Il est également possible de tremper avec une brosse à dents dans du bicarbonate de soude, puis frotter le dessous et dégager les saletés indésirables. En ce qui concerne le renforcement des ongles, qui subissent des agressions au quotidien, massez-les avec de l'huile d'olive tiède.
Ah bah tiens.
Eh oui. Et qui plus est, cela permet de ramollir les cuticules, plus facile à retirer par la suite sans se blesser.
Ouais, bah tu vois, il y a même dans la cuisine, on trouve des produits.
Tout le temps. Petit conseil, laissez respirer les ongles entre deux manucures. Ils en ont besoin, car la kératine qui le compose et permet sa croissance se durcit à l'air libre.
Donc pas trop, pas, on ne doit pas trop mettre de vernis à ongles.
Voilà, il faut de temps en temps laisser respirer l'ongle.
Bah, en même temps, si tu fais ta vaisselle avec tes mains sans gants, ton vernis, t'en as plus.
Donc, exactement. Justement, quant à la pose du vernis, il est essentiel de suivre la bonne procédure. Une base protectrice pour éviter l'ongle de jaunir, deux couches de vernis et un top coat. Ainsi, la manucure tient plus longtemps, mais l'ongle est aussi préservé. Et pensez également à passer régulièrement un léger coup de lime pour que le bord repousse mieux. Oui. Prenez aussi l'habitude d'hydrater les cuticules avec une crème pour les mains, ou mieux une huile végétale, 2 à 3 fois par semaine.
2 à 3 fois par semaine ?
Oui.
Moi, je fais ça matin, midi, soir.
Il existe aussi des remèdes de grand-mère pour les ongles. Exemple, pour les rendre plus brillants. Rien que de plus simple, il suffit de tremper ses ongles ou de les frotter avec du vinaigre blanc. Malgré l'odeur, vos ongles retrouveront tout leur éclat.
Eh ouais.
Eh oui.
Il y a quelque chose avec la bière ?
Non, mais c'est bon la bière.
C'est bon aussi.
Ouais, oui, non, mais le
vinaigre blanc, donc il faut tremper ses ongles dans le vinaigre blanc.
Oui.
Ouais, tu vois, en fait, tout ce que tu as dans ta cuisine, ça te sert à tout.
Il y a toujours quelque chose.
Rien ne se perd, tout se recycle.
Tu peux même faire des masques au chocolat, alors c'est pour te dire.
Ouais, c'est vrai. Et à la mort de café aussi.
Et aussi, ouais.
Pour des ongles plus blancs, polir vos ongles sur un morceau de citron.
Ah oui.
Oui, ou les baigner dans un mélange d'eau tiède et d'eau oxygénée pendant 10 minutes. Mmh. À noter que le citron aura des bienfaits sur la totalité des mains en les laissant douces et lisses. Ouais, ouais. C'est bon le citron.
Ouais, le bois pas après quoi.
Non, petit thé,
faut éviter.
C'est quoi ? C'est le citron de mes cuticules.
Bah oui. Mais on recycle.
Ouais, on recycle. Oui, voilà, c'est important.
Exactement.
Enfin, voici un masque naturel pour éviter les rougeurs. Pour cela, prenez une pomme de terre écrasée, de l'huile d'olive, mélangez le tout et appliquez sur les mains et les ongles pendant 15 minutes.
Avec la pomme de terre et de l'huile d'olive.
Très classe pendant 15 minutes.
Chérie, tu fais quoi ? Je prépare le dîner ce soir.
Tartiflette.
Après, il y a diverses formes d'ongles.
Hein. Ouais, j'ai Coco, elle va pas s'en remettre.
Arrêtez de me rire. Les formes carrées.
Attends, moi j'ai les formes coniques, je crois, non ?
Moi je suis carré.
Ont l'avantage d'aller à tout style d'ongles.
Ah,
long
de la
comme court. Alors, on lime chaque extrémité de façon à égaliser les deux côtés. On termine en limant légèrement la pointe de l'ongle pour harmoniser la forme.
Donc, t'as compris ?
Il y a aussi le carré arrondi.
Ah, le carré arrondi. Ça, c'est pour toi, le carré arrondi.
Sur certains de vos.
Sera très élégant et facile à entretenir. Même méthode que le carré simple, mais on arrondit légèrement les deux angles. Il féminise les ongles tout en affinant les mains.
Ok.
Plus d'originalité, on peut aller jusqu'à tester une forme pointue.
Ah, oui, non, oui.
Attention, toutefois. Elle est difficile à porter car très fragile.
Tu m'étonnes.
Et dangereuse aussi.
Elle doit faire mal aussi.
Oui,
hein. Surtout en pâtisserie, ça ne doit pas être très avantageux.
Pour les ongles courts, une simple forme arrondie conviendra. On lime l'ongle de chaque côté, de l'intérieur vers l'extérieur, de façon à former un cercle suivant le contour du doigt. Ou des ongles mi-longs, voire très longs, la forme ovale sera idéale si on souhaite affiner ses doigts. Alors l'amande sera parfaite. On lime simplement chaque côté tout en arrondissant la partie supérieure. Voilà, comme moi.
Regardez. D'accord.
Oui, on crâne un petit peu.
Les gens ne voient pas, hein, cela dit.
Mais vous voyez-vous.
Moi, en fait, je coupe court. Moi, j'ai horreur des grands ongles, je ne peux pas.
Et moi, j'adore les grands ongles.
Et je lime pas.
On coupe.
Je fais que couper.
Alors, vous voulez savoir quelle sera la teinte de la tendance printemps-été 2020 ?
Oui ! Oh bah oui, quand même !
Mais devinez.
Sous la pluie.
Devinez donc.
Ah, prune ?
Non, c'est pas
violine. Ouais, violine, ça se rapproche.
Pour l'été 2020.
Ah, pour l'été ?
L'été. Ouais,
l'été.
Printemps-été 2020.
Couleur licorne. Moi, ça me va.
Arc-en-ciel.
Arc-en-ciel.
Ah bah, comme ça, tu te trompes pas de couleur, hein, je veux dire.
Non, mais je crois que l'année dernière, c'était le rose, le baby bloom, ou je sais pas quoi, là, c'était un rose.
Ah bah
c'est
non, pas, là,
du vert.
Ça sera le rouge.
Ah, ouais, à côté.
Indémodable. Ouais. Il assure toujours une manucure sans fausse note, et c'est la couleur qu'il faudra avoir dans son vanity l'été prochain.
Bon, on va investir alors.
Facile à associer.
La base, le rouge.
avec toutes tes tenues en fait.
Et puis il fait très glamour.
Voilà. Il a sur des ongles très glamour.
50 nuances de rouge.
Ouais, voilà. C'est ça. 50 nuances de rouge. Bon, donc écoute Angel, sur ce, parce que je crois qu'on va pas arrêter de se marrer, on va continuer sur la rue. Une petite chanson s'il te plaît, qu'on arrive à reprendre notre souffle un petit peu.
Oui, oui.
Parce qu'il faut qu'on repasse là après à la pâtisserie, on va avoir du mal.
Je vais vous passer Goodbye Stranger de Supertramp, sorti en 1979.
Il veut en écouter ça.
Allez,
c'est parti.
Yesterday, I was up before the dawn, and I really have enjoyed my stay, but I must be moving on, like a king without a castle, like a queen without a throne. I'm an early morning lover, and I must be moving on. Believe in what you say is the undisputed truth, but I have to have things my own way to keep me in my youth. Like a ship without an anchor, like a slave without a chain, just the thought of those sweet ladies as they shiver out through my veins. And I will go on shining, shining like brand new. I'll never look behind me, my troubles will be few.
Thank you.
Nous revoilou. Donc après avoir parlé de beauté, de pommes de terre, de citron
et d'huile
et de vinaigre blanc, on va revenir à la pâtisserie. Hein, puisque depuis à la première heure, donc notre invité du jour est Mildred, future chef pâtissière.
Oh, on verra.
Chef-e. Donc on était en train de parler de pâtisserie, la pâtisserie qui remonte depuis l'Antiquité. Au temps des rois, on mangeait beaucoup, on dégustait, je vais plutôt dire.
On se délectait.
Voilà, de pièces montées. Mildred nous a dit que Marie-Antoinette adorait ça. Alors on sait pas si c'était à la vanille au chocolat ou à la chantilly, mais en tout cas, elle adorait ça. Je suppose que d'autres personnes, il y avait qu'elle qui était connue.
Non, après on avait plus. Alors Marie-Antoinette, oui, c'était le péché.
Le péché mignon.
Ouais, c'est même
suprême.
Ouais, c'est suprême. Après, si c'est pareil, il y avait une du côté de Vienne. J'ai plus le nom, mais ils aimaient.
Du côté de Vienne, qui c'est qu'il y avait du côté de Vienne? Joué par Romy Schneider?
Non.
C'est la
Non, mais il y avait une tsarine, je crois, qui aimait énormément, mais je me souviens plus.
Ouais, je pense qu'en fait, c'était le péché mignon de la bourgeoisie.
Ouais, je pense.
Qui se délectait.
Avec le miel,
les sucreries.
Voilà, c'est ça.
Ouais. Et puis avant, c'était la galette, hein. Juste, ouais, l'Antiquité, donc c'était fait à base de farine, d'huile et de miel. Je sais pas à quoi ça ressemblait.
On demandera à Mercotte.
Ouais. On demandera à Mercotte. Ou on va essayer, on sait pas. Parce que ça vient un petit pain, en fait, un petit pain sucré.
Ouais, je pense. Mmh. Ouais.
Bah écoute, hein. Ça peut être toujours bon à prendre, on sait jamais. Quand ton chéri t'embête, tu lui fais ça. Tiens,
bon appétit.
Ouais. Donc du coup, on va reprendre un petit peu, Mildred. Donc, toi, par rapport, alors on a parlé du monde de la pâtisserie, mm-hmm. Qui était beaucoup plus masculin que féminin. Tu as côtoyé ce monde.
Ouais.
Et comment te sens-tu dans ce monde en tant que femme?
Un peu seule. Ouais.
T'as l'impression que les hommes laissent l'ouverture aux femmes ou pas du tout?
Pas forcément. Alors après, c'est toujours pareil, ça dépend avec quel chef pâtissier et dans quel univers. C'est vrai que dans les boutiques où le patron est le patron, là en effet, on voit que c'est l'homme, quoi. L'homme avec le grand H.
Sauf qu'au moment, elle arrive par derrière.
Oui, voilà, c'est ça. Ou la femme qui est
la patronne.
Partie, voilà, ouais. C'est ça. Donc là, c'est pas pareil, qui donne les ordres. Enfin voilà, mais au niveau des laboratoires de production, oui, enfin c'est vrai que la femme est souvent plus sur des rôles minimes, hein, des rôles où on utilise justement notre côté un peu minutieux sur les finitions, mais en général elles sont pas forcément hyper consultées pour les créations ou ce genre de choses. On est vraiment sur un deuxième plan.
Mais toi, quand tu dis que tu fais de la pâtisserie, alors même si t'es pas encore à ton compte au jour d'aujourd'hui, est-ce que les gens sont surpris que ce soit toi qui la fasses?
Non, alors par contre, ce que j'ai pu me rendre compte, c'est qu'il y a deux milieux en fait dans la pâtisserie. Le côté professionnel, que j'ai pu côtoyer à travers mon mari, à travers des stages, enfin à travers plusieurs choses, où là on voit vraiment le côté masculin qui prend vraiment le dessus, et le côté amateur, où on voit vraiment qu'on est plus sur des femmes au foyer, des mamans, des voilà. Donc là, c'est beaucoup plus féminisé en fait, et on voit vraiment cette séparation en fonction du milieu. Alors après, je dis pas les amateurs se professionnalisent de plus en plus. Il y a énormément d'amateurs qui passent par des brevets, des certifications ou par des examens en candidat libre, qui après eux intègrent le monde de la pâtisserie professionnelle.
Puis les concours qu'on a pu voir à la télé aussi.
Oui, aussi, pareil. Mais en fait, en général, on voit souvent un retour en arrière de ces personnes, parce qu'ils s'idéalisent un monde de la pâtisserie professionnelle qui n'est absolument pas du tout. Et des fois, enfin, ça va plus loin, parce qu'il y a des enjeux, personnels. On se dit, tiens, je vais faire une reformation, je vais partir sur ça, avec beaucoup de motivation, parce qu'il y a la passion qui est derrière.
Ouais.
Et puis après, on laisse tomber le projet, parce qu'on se rend compte que c'est pas vraiment ce qu'on a identifié. Et malheureusement, derrière, il faut retrouver, il faut rebondir, et il faut avoir cette force.
C'est difficile.
Je pense que humainement, oui, ça va être assez compliqué. Enfin, moi, j'ai connu une personne, je vais pas la nommer parce que c'est pas le but, mais qui l'a pas forcément très bien vécu. Elle a surfé un peu sur sa vague parce qu'elle est passée sur une émission au crochet. Elle a surfé un peu sur sa vague, et en fait, le patron a utilisé sa notoriété de l'émission, je vais pas dire que ça a été compliqué, parce que elle avait en effet sa responsabilité de son petit rayon et tout, mais à côté de ça, ça n'allait pas au-delà, et elle est repartie sur son métier premier. Donc c'est vrai que c'est
dommage.
C'est dommage parce que derrière on casse un rêve et au-delà du rêve, la personne elle reste pas non plus indemne et ça se fait pas sans conséquence.
C'est dommage. Ouais. Donc elle s'était pas mise à son compte elle-même, elle était via son patron.
Via son patron, ouais.
Qui lui a utilisé.
C'est ça, sa notoriété, son savoir, sa passion, son temps. Et derrière, un an après, ça n'a pas forcément porté ses fruits.
Bah, elle est restée la simple employée finalement, quelque part.
C'est ça. C'est ça.
C'est bien dommage.
Oui. Ouais.
C'est bien dommage. Donc, qu'est-ce que tu dirais des femmes et de la pâtisserie au jour d'aujourd'hui? Alors, à l'époque, n'en parlons pas, mais de l'Antiquité, je ne comprends pas. Ouais. Mais,
non, après, maintenant, je pense qu'il faut aller au bout de ses rêves. Enfin, quand j'ai fait mon concours l'année dernière, que j'étais à Ferrandi, il y avait des jeunes qui étaient en apprentissage sur la pâtisserie. Et elles ont déjà du mal parce que les classes sont composées majoritairement de garçons, donc ça fait des clans. C'est vrai qu'il y a un petit peu de difficulté au niveau de la mixité. Et osez, imposez-vous, quoi. Enfin, je veux dire, on est des êtres à part entière. Vous avez un talent. Enfin, il y a une équivalence, voire même peut-être des fois une supériorité sur certains points. Mm-hmm. Et il faut utiliser justement les points forts et pas se focaliser sur les points faibles. Il faut vraiment aller de l'avant. Et si vous croyez en quelque chose, allez-y jusqu'au bout. Enfin, pour la petite histoire, il y a Christelle Bruat que j'ai eu la chance de rencontrer. Elle m'a expliqué un peu son parcours. Son rêve, c'était de travailler avec Frédéric Anton. Mais c'était son rêve. Elle est sortie de l'école, elle a dit « Je veux travailler avec Frédéric Anton ». Elle l'a sollicité une fois, deux fois, et en fait, elle a été même jusqu'aux limites du harcèlement, entre guillemets. Et à la fin, elle s'est dénotée, elle s'est fait remarquer parce que, elle était tout le temps présente dans les entretiens, elle téléphonait, envoyait des CV et tout. Et c'est sa persévérance, en fait, qui a fait la différence. Et quand on voit aujourd'hui où est-ce qu'elle en est dans son parcours, je me dis à un moment, il faut y aller au culot, quoi. On n'est pas forcément prédisposé justement à avoir des postes ou ce genre de choses plus facilement. Alors, je dis pas que tout le monde est misogyne et que voilà, mais
tout le monde a la même chance.
Voilà, il faut se donner les moyens que quel que soit votre niveau, quel que soit votre milieu, quelle que soit votre origine, quel que soit, il faut y aller, il faut vous démarquer. Croyez en vous. À partir du moment où vous croyez en vous, vous allez faire des merveilles.
Et si t'as du talent sans avoir la motivation,
il y a rien. Et ceux qui perdent, c'est la motivation, c'est les passionnés. Enfin,
ceux qui bossent.
C'est ça. Et en tant que femme, dans les métiers de bouche, il faut bosser deux fois plus. Il faut vraiment se démarquer. Alors après, c'est pareil parce que dans les métiers de bouche, on a les horaires qui sont contraignants. Il y a la maman, à un moment on fait des choix justement où on veut avoir des enfants, ce genre de choses, et c'est pareil, c'est un frein. Comment donner la responsabilité par exemple d'un grand restaurant étoilé ou ce genre de choses, tout en sachant que cette personne va peut-être avoir des enfants ou après peut-être congé parental. Enfin voilà, c'est des vraies questions existentielles. Après, il y a des consensus à faire. Christelle Bruat, ça l'a pas empêchée de mener de front justement sa vie de femme, sa vie de maman, parce que elle est maman, un petit garçon qui doit avoir 4 ans, je pense. De temps en temps, il vient travailler avec elle, et il s'entraîne au sucre stiré, au sucre soufflé. Enfin, voilà. Mais c'est comment, on intègre. Comment est-ce qu'on met justement toutes ces vies en parallèle pour pouvoir justement au mieux concilier le projet professionnel.
Et puis la femme se définit pas que par maman.
Non. Non, c'est ça, les enfants grandissent.
Il y a toujours des solutions à trouver,
bien sûr.
Si on est quand même capable de travailler quand même en étant enceinte. Quoi.
Bien sûr, donc, c'est pas une pathologie. Même si c'est fatigant, c'est vrai que la grossesse, c'est pas ce qu'il y a de plus fun. Après, ça dépend comment la personne le vit. Mais c'est pas forcément la période où on est plus à fond.
Mais c'est pas une maladie, en fait, d'être enceinte.
C'est ça. Après, ça dépend comment est-ce qu'on voit la vie. C'est une philosophie. Mais après, ce problème se pose dans tous les métiers. Aujourd'hui, c'est pareil pour la télévision, c'est pareil pour les personnes qui travaillent en radio, c'est pareil pour... C'est dans tous les métiers. Donc,
c'est comme les hommes, ils sont capables d'être 9 mois en arrêt pour un rhume.
Un petit tacle.
Non mais c'est vrai, en plus j'en connais. Hein, Coco?
Oui. C'est pas faux du tout.
Non, c'est pas faux du tout. On en connaît.
Il a un bon médecin.
Voilà. Et comment t'arrives à prendre est-ce que tu trouves que c'est difficile de prendre ta place dans ce milieu de la pâtisserie en tant que femme?
Après, moi personnellement, non, parce que je gravite à travers justement le système amateur. Et j'ai également Marisos qui m'a mis un peu le pied à l'étrier. Et c'est une association 100% féminine qui promouve justement la femme dans les métiers de bouche. Donc, à travers le prisme que je peux avoir, j'ai pas de difficulté parce que justement, déjà, il n'y a pas tout cet enjeu professionnel derrière que je peux avoir. Et j'ai des prismes facilitateurs. Et donc, du coup, j'ai pas. Et puis après, j'ai une attitude assez facile. Enfin, j'ai la tchatche assez. Je sais ce que je veux, je sais où je veux aller. Enfin, voilà, sur ça, j'ai pas de soucis, mais j'ai pas de difficulté à.
Ça serait plus compliqué si tu avais pris la branche professionnelle.
Je pense, et si j'étais rentrée dans le milieu à 16 ans, ouais. Ouais. Parce que bah, quand on
t'es
rentre...
T'es pas armée, en fait, je pense, à 16 ans.
Quand on rentre à 16 ans, on dit, ouais, je vais faire un...
Si t'as pas les parents qui te soutiennent derrière,
exactement,
je pense que du coup, tu...
Ouais, ou même le moral, enfin, c'est pareil, hein. CAP, pâtisserie, boulangerie, il faut s'accrocher, déjà, c'est pas facile. C'est à beaucoup de choses, c'est physique, hein, les sacs de 10 kilos de farine, il faut les soulever. Enfin, voilà, alors après, il y a des systèmes qui sont plus ou moins adaptés, mais... Voilà, c'est pas forcément facile. Alors en plus, pour le peu qu'on tombe sur un pâtissier ou un boulanger qui décide de mettre tout le monde à la même ligne, bon, c'est pas forcément facile non plus. Après, il y a toute la remise en question de la jeunesse. Enfin, il y a plein de choses, ouais, plein d'étapes. Mais si j'avais fait le choix quand j'étais plus jeune, ouais, c'est vrai que ça aurait été beaucoup plus difficile.
Et donc, historiquement parlant,
ouais.
Est-ce que t'as des noms de femmes qui ont été pâtissières reconnues dans le temps d'avant, pas beaucoup, pas du tout.
Là, ça commence un peu à émerger gentiment parce que bah, justement les réseaux sociaux, les émissions, pareil, je pense qu'il y a une volonté aussi du métier, de la branche, de vouloir féminiser un peu les choses, pas être stigmatisé sur ouais bande de gros machos. Enfin voilà,
c'est, ouais, voilà.
Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire comme ça en sous-marin. Mais les principaux noms qui ressortent, alors là je vais mélanger pâtisserie et cuisine, on a Anne-Sophie Pic, qui est quand même la seule femme à avoir 3 étoiles au guide Michelin, donc c'est quand même triste quand on voit qu'il n'y a qu'une seule femme, et derrière, enfin pour l'avoir rencontrée aussi et avoir un peu échangé, c'est une femme avec des valeurs extraordinaires et qui a dû faire beaucoup de sacrifices, je pense. Après on a Claire Etzler, qui est sur la pâtisserie, après on a Christelle Brua. Après, on a Nina, qu'on a vue, je crois, c'est à Top Chef, une petite jeune Top Chef, ou c'était le meilleur pâtissier professionnel, je sais plus.
Je sais pas.
Qui commence à émerger gentiment aussi, mais après, enfin, c'est pas hyper médiatisé, quoi. Il y a pas.
Ouais, en fait, on facilite pas les femmes à aller dans ces métiers de bouche.
Non, ouais, du tout moins la promotion extérieure, l'œil extérieur qu'on peut avoir, il y a pas forcément. Je vais vous demander instinctivement de me donner 5 noms de chef pâtissier et vous allez.
Même homme. Hein.
C'est vrai.
Ouais,
voilà. Bon, enfin, c'est plus facile. Hein. Il y a Pierre Hermé, vous avez Conticini, vous avez Cyril Lignac. Enfin, voilà.
Cyril Lignac, oui, parce qu'il passe à la télé. Sinon, c'est vrai que c'est pas. Parce que quand tu vas dans des grands restaurants, des grandes pâtisseries, c'est quand même, comme on disait tout à l'heure, c'est quand même très axé, on va dire encore axé bourgeoisie. Donc, quand t'as pas envie de mettre autant pour, ou alors exceptionnellement, mais vraiment exceptionnellement, mais du coup, tu retiens pas, en fait, le nom de la personne.
Moi, si.
Parce que t'es passionnée.
Oui, voilà. C'est ça, c'est mon centre d'intérêt. Mmh. Après, maintenant, c'est pour ça, mais c'est vrai que c'est malheureusement, ouais, c'est encore très très
donc nous très si déjà nous on retient pas les noms des hommes, alors les noms des femmes faut pas demander,
c'est encore plus difficile. Ouais, ouais, c'est
parce
sûr
qu'en fait elles sont médiatisées encore moins,
c'est ça, mais il y en a moins déjà, donc par exemple Virginie Basselot, qui est meilleure ouvrière de France en cuisine, on n'en entend quasiment pas parler. La seule fois où j'ai vu sur une pub, c'était sur Président, je crois, quelque chose comme ça, et genre c'est 2 minutes et c'est pas écrit la seule femme meilleure ouvrière de France en cuisine.
Et récemment il y a une femme qui est la plus médaillée en je ne sais plus quoi, mais elle est la plus médaillée et en fait on n'en parle pas à la télévision.
Mais c'est pareil, enfin même au niveau du football, au niveau du handball, au niveau on n'en parle pas forcément. Et c'est vrai, alors je dis pas qu'il faut une révolution, mais il faut une prise de conscience, je pense, à un moment. Faut se dire, oui, ok, on est là.
Ça devrait être la parité dans tous les domaines.
Bah, même rien qu'au niveau du salaire, vous avez pas vu le scandale qu'il y avait eu à la Coupe du Monde, où les femmes demandaient justement à toucher le même salaire que les hommes, et elles sont payées 10 fois moins.
Ouais.
Qu'on m'explique, quoi.
Très bien. Bah, ça doit être des hommes qui gèrent l'argent, donc
c'est
obligatoirement, ils en gardent la moitié. Voilà. Bon, on changera pas le monde avec ça, peut-être un petit peu, mais bon.
Une prise de conscience,
ouais. Donc, on va juste faire la petite pause interview et on va passer à la rubrique cuisine.
Oui.
On va parler des cuisines d'automne. La petite rubrique cuisine aujourd'hui, on va parler d'un gâteau d'automne, alors aux pommes et aux raisins. Donc, parce que en automne, bah, c'est surtout la pomme qu'on va travailler. Mm-hmm. C'est pas la raclette, hein, comme on dit souvent. La raclette, c'est que l'hiver.
C'est bientôt. Bon,
c'est pas encore l'hiver. Hein.
Après, ça dépend où on se trouve dans la France. Ça dépend où on se trouve dans la France.
Aujourd'hui, vu ce qui drache, comme on dit dans le Nord, ouais, ça dépend, parce que je suis pas sûre aussi dans le Sud, il pleut autant. Donc, gâteau d'automne aux pommes et aux raisins. Donc, pour 6 personnes, ça dure le temps de préparation 20 minutes, temps de cuisson 35, temps de repos 2 heures. Donc, restez à la maison. Ouais, c'est long. Et donc, c'est assez facile quand même à faire. Donc, pour les ingrédients, il faut 2 pommes, 60 g de raisins secs, 160 g de sucre, 80 g de farine, 3 œufs, 2 cuillères à soupe de poudre d'amande, 2 cuillères à soupe de chapelure, 10 centilitres de crème fraîche, un paquet de levure, 80 g de beurre mou et en plus pour le moule. Donc, première étape, faites tremper les raisins dans l'eau chaude, préchauffez le four à 7 degrés, à 7 thermostat 7, pardon, 200 degrés. Ensuite, mélangez la farine, la levure, la poudre d'amande, la chapelure, le beurre, le sucre, les œufs et la crème. Épluchez les pommes et coupez-les en dés. Beurrez un moule à manquer, versez la moitié de la pâte, puis les pommes et les raisins égouttés. Ajoutez le reste de la pâte et faire cuire pendant 35 minutes. Mmh. Donc en fait, c'est super facile à faire.
Ah oui, ça a l'air sympa.
C'est pas compliqué. Mmh. Donc je répète les ingrédients, 2 pommes, 60 g de raisins secs, 75 g de sucre, 80 g de farine, 3 œufs, 2 cuillères à soupe de poudre d'amande, 2 cuillères à soupe de chapelure, 10 centilitres de crème fraîche, un paquet de levure, 80 g de beurre mou et pour le moule. Alors sur ce, Mildred, est-ce qu'elle a une petite recette ?
Je suis en train de regarder justement sur mon blog, il y a plusieurs recettes sympas. Au niveau de la pomme, enfin après, vous pouvez partir sur une tarte aux pommes basique. Donc vous partez sur une pâte brisée. Alors après, soit vous l'achetez ou soit vous la faites vous-même.
Faut la pétrir.
Voilà. Alors après, c'est pas grand chose. Hein. Si vous avez un robot, c'est rapide. Et puis après, vous mettez des pommes que vous coupez en petites lamelles. Et puis vous mettez tout ça au four à peu près une vingtaine de minutes. Ça vous fait une petite tarte aux pommes rapide. Et c'est plutôt sympa. Ou après, vous avez aussi la tarte aux pommes normande. Donc là, c'est avec la version avec le flan dedans. Vous faites une tarte aux pommes, vous mettez vos pommes. Et après, vous mettez un appareil par-dessus et... c'est ce qu'on appelle justement la version normande, parce qu'il y a de la crème. Ouais,
oui. Un petit peu plus goûtu.
C'est ça, et puis avec une petite glace vanille au top.
Ou chantilly.
Ou chantilly.
Et chantilly.
Et chantilly. Vous voyez.
Et où, ouais. Mais le mieux c'est et chantilly.
À voir, ça dépend.
Ah, écoute, autant qu'à faire, autant d'aller jusqu'au bout. Hein. C'est quand même mieux. Donc voilà, la période, c'est la période de la pomme. On peut la travailler un peu dans tout le... Ouais. Avec un petit peu épicé, non, la pomme avec les tartes aux pommes.
Vous pouvez, la cannelle, ça passe super bien avec. Hein. Cannelle, ouais. Vanille. Ou après, tout simplement, une compote de pommes. Hein. C'est hyper simple à faire.
Ouais. Bah, de toute façon, c'est la saison cannelle.
Ouais. Ah ouais.
Avec toutes les bougies à la cannelle qu'on nous sort.
Ouais, ouais. C'est la période.
Ouais, c'est la période. Bah, on va revenir à notre petite rubrique, Monsieur Angel. Ah non, pardon. On va faire une petite pause musique. J'avais oublié la musique. J'ai oublié Angel, en fait.
Alors, cette fois, je vais vous passer... Donc, c'est
Devant le micro, Angel, parce qu'on t'entend pas.
Can't Nobody Love You de The Zombie, sorti en 1965.
Eh ben, on écoute ça. The Zombie, tu vois, à l'époque, ça existait déjà.
Can't nobody love you like I'm loving you, baby, 'cause they don't know how to love you like I do. Can't nobody love you like I'm loving you right now, 'cause they don't know how to love you like I do. Oh, I'm gonna love you in the morning, love you late at night. I ain't gonna stop loving you. You tell me everything, alright. Oh, can't nobody love you like I'm loving you right now. They don't know.
Voilà, encore nous. Donc, Mildred, tu as fait un concours.
Oui, la cuillère d'or.
Explique-nous un petit peu.
Alors, en fait, suite à tout ce qu'on a pu développer au préalable avec le peu de représentativité féminine dans les métiers de bouche, on a Marie Sauce, qui est fondatrice de l'association La Cuillère d'Or, qui a décidé de promouvoir la femme justement dans les métiers de bouche. Donc, elle organise depuis quelques années déjà des concours 100% féminins, aussi bien en pâtisserie qu'en cuisine, professionnelle et amateur. Donc c'est un dossier qu'on doit déposer, donc il y a des dates bien délimitées. Là, elle est en train de faire un concours. D'ailleurs, elle a décidé de lancer le concours international. Donc on a l'Espagne qui nous a rejoint, et ensuite un pays de l'Amérique centrale. Je ne sais plus lequel, mais je ne sais plus si c'était le Mexique ou j'ai un doute. Donc dans le doute, on s'abstient.
Amérique centrale.
Ouais, Amérique centrale. Et donc du coup, voilà, donc elle a décidé de promouvoir la femme dans tous ces états. Et elle organise des concours et elle met vraiment la femme au cœur de cette association. Et elle a plusieurs des grands noms en fait de métiers de bouche, donc pâtisserie, chocolaterie, cuisine, qui parrainent l'association, qui promouvent justement tout ça et qui nous accompagnent et qui nous accompagnent, qui nous jugent, qui nous guident. Et c'est hyper bienveillant et ça a été l'une de mes plus belles expériences de ma vie.
Tout le monde se soutient.
Ouais, ouais, ouais. Il y a vraiment une symbiose et c'est pas une compétition. Ouais, même si on est dans un concours, c'est pas une compétition. C'est vraiment quelque chose de bienveillant et c'est là où c'est appréciable.
Beaucoup plus féminin que masculin. Et que féminin.
Ah bah c'est 100%. Les candidats sont 100% féminines.
D'accord.
Et d'ailleurs, là, il y a le concours de la cuillerée d'or pour les petites filles qui va se tenir le 25 octobre. Et je fais partie des jurys pour les petites pitchounettes.
Qui aiment la pâtisserie.
Qui aiment la pâtisserie.
Ou la cuisine.
Là, ça sera que la pâtisserie.
Ouais,
là, c'est que la
Et
pâtisserie.
Toi, tu as remporté un prix, du coup.
Oui, bah, j'ai gagné en fait la cuillère d'or en 2018. Et voilà, sur la partie amateur pâtisserie.
C'est bien.
Ouais,
avec
c'est très bien.
Avec le macaron.
Non, pas avec le macaron. Le thème était imposé. C'était les déesses. Donc, il fallait faire un entremets pour 8 personnes sur le thème des déesses. Donc, je suis partie sur un entremets chocolat, passion, hibiscus et mangue.
Wow. Voilà. On aurait dû être dans le jury, en fait.
Ouais.
Et en fait, c'est toujours imposé, alors du coup.
Le thème, oui, pour que ce soit plus simple, pour les comme ça au moins on a la même base de travail. Et puis après, ça permet aussi de voir un peu l'histoire qui est construite autour de l'entremets, parce que le tout, c'est pas d'arriver qu'avec un gâteau.
Devez parler de votre réalisation.
On a un dossier, donc moi j'ai donné du sens sur le pourquoi les déesses, donc je suis partie sur l'offrande. Parce que pour moi, la pâtisserie, c'est un don de soi. Donc,
oui, voilà. Bah, tu vois, comme je disais tout à l'heure en l'Antiquité, on offrait les biscuits à base de farine, huile et voilà, toi.
Donc du coup, je suis partie là-dessus et j'ai vraiment créer un contexte, et même le socle, la présentation pour mon entremets, je suis partie sur une pièce en chocolat que j'ai fait moi-même où c'était deux mains qui étaient posées avec un cercle et l'entremets se mettait dessus.
Et bien voilà. Dites donc. Ça nous donnait du travail tout ça.
Ouais.
T'as mis combien de temps?
Alors la pièce en chocolat, l'avantage du chocolat quand ça se travaille brut, ça peut se conserver. Donc là j'ai mis à peu près 2 semaines à la faire. S'il fallait faire les moulages, le temps de séchage et ensuite après travailler le...
Et tu devais en faire combien?
Un seul, pour un le seul. Socle, un D'accord. seul. Et après, il y avait toute la mise en point de l'entremets, où il fallait créer l'entremets, s'assurer des bonnes textures, des jeux de mâches, les goûts, l'association, est-ce qu'il n'y a pas trop d'épices, est-ce qu'il n'y a pas trop de... Enfin voilà, c'était quand même assez assez cosu. Et en fait, je me suis inscrite, c'était au mois de juin, et l'épreuve était passée le 8 mars pour la journée de la femme.
Ibi.
Donc très symbolique aussi.
Oui, très symbolique. Quoi. Mais alors rappelle-nous, c'était, il y avait de l'hibiscus, du...
Hibiscus, de la... Alors en fait, je suis partie sur une mousse au chocolat.
Ouais.
À l'intérieur, j'ai mis un insert de fruits. Donc c'était hibiscus, passion et mangue.
Ouais.
En dessous, il y avait un craquant aux noisettes.
D'accord.
Et après, en dessous, il y avait un biscuit madeleine à la vanille.
Ouais, ça fait la bouffe, tout ça. Et t'en as plus en réserve, là, un petit
non,
peu,
il a été mangé.
Ils ont tout mangé.
Ils ont tout mangé.
Ah bah, ils sont gourmands, hein.
Ouais. Bon, après, ils étaient nombreux aussi, hein.
Bah, écoute, ça donne envie.
Oui, tout à fait. Hein.
Vachement, même, hein.
Ouais.
Vachement.
Ouais.
Ouais. Et tu vas le refaire ou c'est une fois par an ou tu...
Alors, en fait, enfin, je suis pour le challenge et je me suis dit bon, une fois c'est déjà très bien. Là, j'ai voulu le tenter pour la deuxième fois, mais je me suis dit bon, il y a pas forcément d'enjeu. Après,
ouais.
Voilà, je vais aussi laisser ma chance aux autres. Et le but, c'est pas d'accumuler les trophées et de se dire oh, j'ai gagné. Non, voilà, c'est à un moment, il faut un peu d'humilité et de se dire bon, okay, j'ai gagné cette année. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais?
Et, c'est ça aussi.
Et après, on construit sur le futur.
Est-ce que ça te sert finalement d'avoir gagné les...
Alors, ça m'a servi parce que j'ai rencontré énormément de personnes.
Ouais.
Et c'est super enrichissant, enfin, cette expérience humaine qu'on peut avoir autour, justement, de quelque chose qui fédère, hein, la pâtisserie, mm-hmm. quelque chose qui passionne. Je me suis fait un petit réseau sympathique. Et puis après, bon, on verra bien si je décide de faire ma reformation professionnelle et partir sur autre chose. Et, voilà,
donc, est-ce que tu comptes, justement, devenir pâtissière ou pas?
Je suis en phase de réflexion et on va voir si je capitalise là-dessus ou pas.
Faux. Oui. Comme tu disais, il faut aller au bout de ses rêves, c'est bien.
Ouais, après, il y a des périodes pour tout.
Oui. Parfois, il ne faut pas attendre.
Aussi.
On va passer à la rubrique bah, confiance en soi. N'est-ce pas, Angel?
Love. Exciting and new. Come aboard, we're expecting you. And love, life's sweetest reward. Let it flow, it floats back to you.
Donc nous passons à notre petite rubrique confiance en soi. Aujourd'hui, comment comprendre le manque de confiance en soi pour mieux reprendre confiance en soi?
Mm-hmm.
On essaie de compris le oui. jeu de mots. Enfin, le côté redondant du jeu de mots, on va dire.
Oui.
Alors, le manque de confiance en soi est un obstacle majeur à une vie épanouie. Je pense que tout le monde est au courant. Ça, il n'y a pas de souci. On le sait, hein, de toute façon, tout ce qu'on peut faire pour justement ne pas être épanoui. Donc, est un obstacle majeur à une vie épanouie, vibrante et entreprenante. Les causes de ce manque de confiance en soi sont multiples. Les connaître et identifier celle dont on souffre est un premier pas pour regagner confiance en soi. Le manque de confiance en soi est un mal assez répandu qui touche toutes les classes sociales et toutes les générations. Il n'y a pas de racisme là-dessus, hein. C'est tout le monde confondu. Donc tout le monde peut donc être touché ponctuellement ou régulièrement. De plus, tous les domaines de notre vie et de notre quotidien peuvent en être affectés, que ce soit dans la sphère professionnelle ou personnelle. C'est un blocage qui nous empêche d'agir et nous distille des pensées dévalorisantes et négatives. Comprendre le manque de confiance en soi, si vous souffrez de manque de confiance en vous, il peut vous arriver de vous sentir enfermé dans un carcan. Vous avez l'impression de ne jamais pouvoir être véritablement vous-même et ne pas développer votre potentiel. C'est une sensation qui se manifeste autant par des peurs, qui semblent irrationnelles pour certains, que par des blocages, des inhibitions qui vous empêchent d'agir, voire de vivre dans certains cas extrêmes. Des symptômes réels. D'où vient le manque de confiance en soi ? Certains évoquent des lacunes dans l'enfance, un manque de présence ou d'autorité parentale. D'autres au contraire, estime que des accidents de la vie peuvent fragiliser une personne qui ne parvient pas à rebondir, qui ne retrouve plus ses repères. Soudain, par peur des autres, par peur de ne pouvoir les affronter, par peur de ne pouvoir être capable, on se met à se dénigrer et à se dévaloriser. Vous trouvez que vous êtes dans quelle catégorie? Vous avez toute confiance en vous.
Carrément. On assure, oui. On assume.
Au niveau des relations avec les autres, le manque de confiance en soi est rapidement visible, car vous faites preuve de timidité ou de gêne excessive. Vous attendez d'être en confiance pour commencer à vous livrer. Vous avez peur d'être ridicule, vous craignez le regard des autres ou le jugement des autres. Vous ne parvenez pas à prendre de décision, vous tergiversez et hésitez fréquemment, quitte à vous taire pour ne pas aller à l'encontre des autres. Voilà, après, on peut très bien, dans un premier temps, se taire pour savoir à qui on a affaire.
Oui, là.
Ça ne veut pas dire qu'on est timide.
Je ne dirai rien.
D'accord.
Je me tais.
On a compris. Alors, en somme, vous vous effacez. Il y en a beaucoup qui le font.
Oui.
Des phrases comme « je suis nulle »,« je n'y arriverai jamais »,« j'en suis incapable » deviennent alors des mots récurrents, vous empêchant de commencer une action ou même de la planifier. Identifiez les origines. Si vous souffrez d'un manque de confiance en vous, il est impératif de les identifier. Vous serez alors capable de prendre des mesures nécessaires pour mettre en place des stratégies et des solutions pour aller de l'avant et enfin vous affirmer et vous exprimer. Les causes du manque de confiance en soi sont multiples, mais les plus récurrentes sont 1. La peur de la critique. 2. La peur du regard des autres. 3. Le doute de soi. 4. Un sentiment d'infériorité. 5. La sensation de se sentir mal aimé ou mal compris. Les 5 causes majeures du manque de confiance en soi. Voici un panel de principales causes de manque de confiance en soi. Donc je reprends ce que je viens de dire. La peur de la critique. Et c'est l'une des peurs les plus répandues et l'origine d'une déficience de la confiance en soi. La principale cause de cette peur est que vous êtes trop concentré et préoccupé par le regard des autres et de leur opinion. Du coup, vous ressentez un sentiment d'insécurité. Au lieu de prendre des risques de façon positive et constructive, vous avez le réflexe de vous mettre sur la défensive. Le problème, c'est que vous vous préoccupez trop de ce que pensent les autres. Vous écartez vos opinions personnelles pour céder la place à celle des autres. Malheureusement, cela vous crée en vous un sentiment d'impuissance. Dans le milieu professionnel, ce type de comportement peut vous nuire car il suffit d'un chantage affectif pour que vous vous écrasiez. En vous préoccupant moins des autres, vous resterez vous-même. Vous devenez une personne honnête, stable, qui ne fait pas semblant. Mmh. Donc à la base, ceux qui font semblant, c'est ceux qui n'ont pas confiance en eux.
C'est ça.
Et puis après, ça prend des proportions.
Un cercle vicieux.
Oui. Voilà. Le sentiment d'infériorité, qui peut devenir un complexe d'infériorité, démontre clairement un ressenti. Il est possible que vous ayez été humilié, ignoré ou blessé, ce qui vous fait douter de vous et vous a donné le sentiment d'être le vilain petit canard du groupe ou de la famille et d'avoir le sentiment d'être mal aimé. La première cause reste souvent les parents. Ils ne sont jamais mal intentionnés, mais il ne faut donc pas leur en vouloir, sauf cas extrême. Mais leur attitude envers vous, enfant, a des effets sur votre confiance en vous, adulte. Ils n'ont su vous encourager ou vous offrir un environnement stable. Ils étaient ou trop critiques, trop exigeants ou encore trop protecteurs. Tout cela ne vous a permis de vous libérer totalement et de vous émanciper sur le plan émotionnel. Il est d'ailleurs tout à fait normal et logique de développer un sentiment négatif sur votre personne. Arrêtez de penser que vous n'êtes pas aussi bien ou aussi fort que les autres. Acceptez vos points forts autant que vos points faibles.
Ouais. C'est exactement ça. Hein.
Voilà. Donc voilà, n'écoutez pas papa, maman, en même temps quand on a plus de 18 ans.
Il faut les écouter quand même. Hein.
ça dépend les parents. Ça dépend les parents. N'ayez pas de relations sexuelles avant 37 ans.
15 ans déjà.
Donc l'incapacité à vous affirmer, ce manque de confiance en soi provient aussi de l'impossibilité de vous affirmer et de dire ce que vous pensez et ce que vous ressentez, au détriment des autres du coup. Cette incapacité à vous défendre et exprimer vos besoins vous apporte tout son lot de colère, de ressentiment, sans oublier que vous allez vous enfermer dans une bulle de négativité. Le manque de confiance en soi crée l'insécurité, du doute et du pessimisme. Apprenez à vous affirmer et les autres de vos entourages réaliseront enfin ce que vous voulez. Les conséquences directes de cela sera un respect à votre personne. Ils sauront que vous êtes capable d'assumer des responsabilités plus importantes. Vous vous sentirez mieux dans votre peau. Donc osez dire ce que vous ressentez.
Oui.
Non, t'es pas d'accord.
Si, mais t'es quand même les formes. Hein. Voilà.
Oui, ça dépend. Ouais, mais des fois, quand t'entends kicking trop, t'as pas besoin des formes. Hein.
Ouais, ouais. Enfin, moi, j'ai une théorie, mais je la dirai pas, c'est trop vulgaire.
Bon, je vais faire vite parce qu'il nous reste pas longtemps, il nous reste 2 minutes. Donc, le but, c'est de vous fixer des objectifs réalisables. Voilà. Effacez la culpabilité si elle s'installe. Ne fuyez pas le regard des autres. Faites du sport, c'est bien aussi. Visez des objectifs réalistes. Utilisez votre peur. Soyez dans l'action.
Mmh,
voilà, ouais. Ça peut être des choses bien. Vous connaissez maintenant les principales causes du manque de confiance en vous. Vous connaissez aussi quelques solutions, méthodes, pratiques pour lutter contre. Regagner confiance en soi est essentiel. C'est indispensable.
Il faut,
c'est ça.
Ouais.
Pour la création et pour soi.
Voilà.
Son épanouissement.
C'est ça. Si vous voulez, si vous avez envie de réaliser des choses dans votre vie, y allez-y.
Foncez.
Ouais. N'attendez pas trop longtemps.
Elle vient de me regarder du coin.
Non, c'est juste un discours subliminal.
Non, il n'est pas subliminal, celui-là.
C'est juste un regard en coin.
Merci, je le retiendrai.
Bah écoute, Mildred, c'était bien. Pendant 2 heures, ça passait super vite, comme d'habitude. Parce qu'on n'arrête pas de rigoler.
Ouais.
Puis on accueillera encore Mildred pour le salon du chocolat.
Avec toutes les pastilles de chocolat dégustées.
Oui, quoi. Ouais, oui. Comme ça, on sera mieux à même de dire aux gens ce qu'on a ressenti.
Voilà,
hein,
oui,
Coco?
Tout à fait.
Avec un petit peu de bière à côté, comme ça passera le chocolat.
Ouais, c'est pas les paillettes que je vais vous mettre dans les yeux, c'est les pastilles de chocolat.
C'est les pastilles de chocolat. Bah, les pastilles de chocolat brillantes. On peut mettre du fil d'or autour.
Moi aussi, c'est vrai.
Bah, donc, du coup, on vous dit à la semaine prochaine.
Oui.
Couvrez-vous bien, parce qu'il pleut encore, apparemment. Oui, il pleut encore.
Parapluie.
Ouais.
Regardez le sourire.
Ouais, voilà. Et on vous dit à la semaine prochaine. À bientôt.
À bientôt.
Au revoir.